Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Mes très chers frères, c'est aujourd'hui le septième dimanche après la Pentecôte, et ces paroles qui sont tirées du graduel sont les paroles de l'Église. L'Église nous attire à elle et nous demande notre oreille, nous demande de lui donner notre oreille afin de nous enseigner à craindre efficacement et pour notre salut ce Dieu qui nous aime et qui nous a rachetés par le précieux sang de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Approchez-vous de moi, continue-t-elle, pour être illuminé de sa lumière et n'avoir point le visage couvert de confusion. Le visage couvert de confusion, c'est la référence au jugement dernier, et l'illumination, c'est la référence à l'œuvre de la grâce dans notre cœur durant l'état de voie. Approchez-vous de lui pour être illuminé de sa lumière et n'avoir point le visage couvert de confusion. L'Église nous enseigne et elle ne veut pas que nous restions dans les ténèbres de notre ignorance et de notre mauvaise volonté. Aussi, l'Église veut-elle nous enseigner et elle tient en réserve aujourd'hui un certain nombre de vérités qui peuvent nous aider dans notre vie spirituelle parce que ce sont des vérités divines sans lesquelles nous ne pouvons ni nous connaître ni connaître Dieu. Donc nous avons plusieurs choses à voir aujourd'hui, mes très chers frères. Premièrement, nous avons à voir comment Dieu a un plan qui est infaillible et comment nous y participons pour notre salut. Deuxièmement, nous avons à voir en quoi consiste le plus dangereux des faux prophètes. Et enfin, nous avons à voir comment nous conduire pour échapper à la damnation. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
L'oraison de ce jour est une oraison tout à fait magnifique et remarquable. Ô Dieu, dont la providence ne se trompe point dans ses dispositions, nous vous en supplions, écartez de tout ce qui peut nous nuire, accordez tout ce qui peut nous servir. Deus cuius providentia in sui dispositione non fallitur, te supplices exoramus, ut noxia cuncta submoveas, et omnia nobis pro futura concedas. C'est une affirmation. Ô Dieu, dont la providence ne se trompe point en ses dispositions. Les dispositions, ce sont les plans, c'est ce qu'elle a prévu et ce qu'elle a pourvu aussi. Dieu ne se contente pas de prévoir les choses, il les préordonne. Ô Dieu, dont la providence ne se trompe point en ses dispositions. Ce n'est pas quelque chose que nous avons à demander à Dieu, qu'il ne se trompe pas, ce n'est pas quelque chose que nous avons à espérer, c'est quelque chose que nous avons à croire. Et je dirais même, c'est quelque chose que nous avons à savoir. La providence de Dieu ne se trompe point dans ses dispositions. Tout ce qui arrive est la volonté de Dieu, tant bien que mal, c'est la volonté de Dieu, tout est la volonté de Dieu, et c'est la providence qui est l'ordonnatrice, l'organisatrice de tout ce qui arrive. Et c'est non seulement l'organisatrice, mais c'est aussi l'infaillible ordonnatrice. Il n'y a pas de hasard, je pense que tout le monde veut bien le reconnaître, il n'y a pas de hasard, un chrétien ne peut pas utiliser sérieusement l'expression « par hasard ». Des fois on dit « par hasard » simplement pour souligner le fait que c'était vraiment d'une façon non préméditée, non prévue. Mais le chrétien ne croit pas qu'il y a un hasard, il ne croit pas que Dieu n'a pas tout prévu, et il ne croit pas que quoi que ce soit échappe, échapper. Il ne croit pas que quoi que ce soit puisse échapper à la volonté divine et à sa prévoyance. Ô Dieu, dont la providence ne se trompe point en ses dispositions. Il faut faire une remarque, mes très chers frères, que Dieu ne se trompe jamais dans ses plans, qu'il ne se trompe jamais dans l'ordonnation de ce qui doit arriver, qu'il n'y ait pas de hasard, bon, nous sommes tous d'accord. Mais cela ne signifie pas que tout est pour le mieux pour tous. Cela signifie que Dieu ne se trompe jamais. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, comme dit saint Paul, toutes choses coopèrent au bien, mais de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que pour le chrétien, il n'y a pas de hasard, au sens où il n'y a rien qui puisse et qui serve à son édification, sa transformation dans le Christ, à sa sanctification. Maintenant, il se trouve que pour les mécréants, ils peuvent parler de hasard. Ils peuvent parler de malheureux hasard. Le chrétien ne croit pas au hasard et le chrétien ne croit pas que quoi que ce soit puisse lui nuire. La seule chose, il le croit parce qu'il aime Dieu. Toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, dit saint Paul. Donc, il n'y a pas de hasard, si j'ose dire, et vous me comprendrez, pour ceux qui aiment Dieu. Pour ceux qui n'aiment pas Dieu, il n'y a pas de hasard non plus, mais cela ne leur sert à rien de le savoir. Vous savez, quand vous avez des gens un petit peu spiritualistes qui vous disent « il n'y a pas de hasard dans le monde, toute action entraîne une réaction, toute action... » C'est tout à fait vrai, mais pas forcément au sens où ils l'entendent. Pour ceux qui n'aiment pas Dieu, tout contribue à leur damnation. Tous les péchés, toutes les tentations qui se présentent servent à augmenter leur culpabilité devant Dieu. C'est déjà, ils ne sont pas non contents d'être marqués par le péché originel à cause de la chute, ils accumulent péché sur péché. C'est déjà très grave et c'est digne de la damnation d'être marqué par le péché originel, c'est-à-dire de ne pas être baptisé, et puis quand on est baptisé, de vivre en état de disgrâce. Mais c'est encore plus grave, si j'ose dire, d'accumuler péché sur péché. Tout concourt, pour ceux qui n'aiment pas Dieu, à augmenter la dette envers Dieu. Tout concourt, tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc il n'y a que ceux qui aiment Dieu qui participent au plan rédempteur de Dieu. Encore faut-il savoir de quoi il s'agit. Le plan rédempteur de Dieu, à strictement parler, je vais peut-être vous étonner, mais je pense que cela ne sera pas le cas, n'est pas le plan que Dieu a mis au point pour sauver des hommes et les faire parvenir à la gloire éternelle, à la béatitude. Ce n'est pas faux, évidemment. Mais ce n'est pas, quand on a dit ça, on n'a pas encore tout dit. Le seul plan que Dieu ait de toute éternité, c'est lui-même, c'est sa gloire. Et quand Dieu a commencé à créer, le seul but qu'il avait, c'était de faire éclater sa gloire dans ce qui n'est pas Dieu, c'est-à-dire la création, et par ce qui n'est pas Dieu, c'est-à-dire la création, sachant que la création ne concourt à la gloire de Dieu que dans la mesure où elle est unie à Dieu par la charité. Donc, le plan de Dieu n'est même pas un plan de sauvetage, un petit peu comme vous avez un incendie, puis les pompiers se rassemblent, ils font un plan, une stratégie, ils vont, s'ils sortent avec leur camion, c'est explicitement pour sauver ce qui peut être sauvé de l'incendie. Ça, c'est très bien. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Dieu, le seul plan qu'il a, c'est sa propre gloire. Vous allez dire, est-ce que ce n'est pas un peu nous oublier ou être un petit peu égocentrique? Lorsqu'un homme est égocentrique, il se fait à lui-même son propre centre, il fait de la boue, de l'ordure, de l'abjection, du péché, un centre, ce qui est le dernier des sacrilèges. Mais lorsque Dieu, et nous parlons spécialement du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque Dieu, qui est le Sacré-Cœur, qui est le centre, le cœur et le centre de tous les centres, et de tous les cœurs, eh bien, s'affirme lui-même et se considère lui-même comme étant le seul qui est et le seul digne d'amour et de gloire, puisque c'est le seul trois fois saint, il a tout à fait raison. Donc l'homme n'a pas le droit d'imiter Dieu, car il n'est pas Dieu. Seul Dieu peut être Dieu. Dieu n'est intéressé que par sa propre gloire. Et il y a deux possibilités. Ou bien il fait éclater sa gloire par notre damnation, ou bien il fait éclater sa gloire par notre glorification. Ce qu'il nous importe de savoir, c'est comment participer à l'éclatement de la gloire de Dieu, l'éclat de la gloire de Dieu, par la béatification. La charité, mes très chers frères, est la clé pour avoir part à la bonté divine. La charité est la clé pour avoir part, non pas à la gloire de Dieu qui se manifeste, mais au salut qui se manifeste dans la gloire de Dieu. Les damnés glorifient Dieu autant que les élus. La seule chose, il vaut mieux être un élu qu'un damné. Dieu, mes très chers frères, ne s'est pas trompé en endurcissant le cœur de Pharaon. Il l'a rendu de plus en plus méchant, de plus en plus dur, de plus en plus opiniâtre. Et on ne peut pas dire que Dieu aurait voulu le salut de Pharaon, mais que d'une certaine manière, le Pharaon était méchant, et Dieu ne lui a pas donné la grâce d'être bon. Dieu ne s'est pas trompé. Cela doit nous faire trembler, mes très chers frères. Et même comprendre ces choses est à la portée des païens. J'ai à l'esprit une parole d'un philosophe grec qui disait, ô Dieu, faites que, je paraphrase que je n'ai pas l'esprit, la citation directement sous les yeux, mais ô Dieu, faites que je suive votre volonté, car de toute façon, tout le monde suit votre volonté. Mais faites-là que faites que je la suive volontairement. Alors si un païen, un sage païen est capable de dire cela, de faire une telle prière à Dieu, a fortiori un enfant de Dieu, un chrétien. Dieu, dont la providence ne se trompe point dans ses dispositions. L'Écriture dit que Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. Le méchant ne peut pas dire « je suis méchant, je suis fait pour être méchant, donc je vais glorifier Dieu en étant méchant ». Non, parce que c'est en châtiant sa méchanceté que la gloire de Dieu est révélée. Donc on ne peut pas, comme le pensaient les quiétistes qui se trompaient fondamentalement, dire j'acquiesce à ma damnation pour la plus grande gloire de Dieu. C'est une absurdité. Si l'on aime Dieu, c'est pour la récompense. Propter retributionem, dit le psaume. Donc ce n'est pas une façon d'être intéressé, c'est parce que quand même, nous avons, de par notre création à l'image de Dieu, nous avons un instinct qui cherche le bien, notre bien. Et notre bien, c'est la béatitude. Nul ne peut dire « je considère que la damnation est mon bien si Dieu le veut ». Non, si Dieu a décidé que quelqu'un serait damné, il a décidé de le priver de son bien. Et c'est pour cela que pendant sa vie terrestre, le futur damné ne cherche que des biens temporaires, des biens qui lui font du bien, mais parce qu'il ne trouve pas la sortie vers le vrai bien. Cela doit nous faire trembler, mes très chers frères, parce qu'il faut être conscient de la bonté de Dieu, pour pouvoir aimer Dieu. Si l'on ne sait pas que Dieu est aimable, on ne va pas l'aimer. La providence de Dieu ne se trompe point dans ses dispositions. Le plan de Dieu aboutit toujours à sa gloire. Il aboutira à sa gloire. Maintenant, la question, comme nous l'avons annoncé, est comment en devenir participant? Notre charité, mes très chers frères, la charité théologale que nous avons reçue par le baptême avec la foi et l'espérance, et la charité qui est comme un feu qui doit être entretenu, sur l'autel de notre cœur, notre charité nous fait demander une double demande dans l'oraison. Tout d'abord, elle nous fait supplier. Nous avons souvent insisté là-dessus, nous passerons assez rapidement. Tete supplices exoramus, nous vous supplions, nous vous supplions, suppliant. Nous vous demandons en vous suppliant. Donc on est là vraiment, nous sommes là vraiment à genoux devant Dieu, couchés sur le sol devant Dieu, et nous le supplions de faire deux choses. Premièrement, ut noxia cuncta sub moveas, que vous écartiez tout ce qui est nocif. Noxia, ça a donné nocif en français. C'est la seule demande que nous pouvons faire à Dieu, détourner de nous ce qui peut nous éloigner de notre finalité, de notre fin unique. Écarter tout ce qui peut nous nuire. En réalité, le sens de cette demande est « détournez-nous par la charité de tout ce qui nous éloigne de notre fin unique ». D'une certaine manière, c'est un petit peu comme un concours dans un concours hippique ou un concours pour chiens savants, on met des plots et puis les chiens ou les chevaux doivent tourner autour ou courir. La prière que le cheval ou le chien fait à son maître n'est pas « enlever tous les plots » pour que je ne prenne pas les pattes dedans. Mais c'est guidez-moi de telle sorte que je les évite tous. Vous voyez? De telle sorte qu'il peut dire d'une façon métaphorique, enlevez de devant mes pieds tous les obstacles, c'est-à-dire conduisez-moi par la voie qui passe entre les obstacles, pour que je puisse réussir l'épreuve. Vous voyez? Guidez-moi. Nous ne demandons pas au bon Dieu qu'il enlève les méchants, qu'il enlève les tentations, qu'il enlève les choses. Sinon, s'il le faisait, imaginez que nous disions à Dieu, enlevez s'il vous plaît, mon Dieu, toutes les tentations. Mais le problème, c'est que le monde est une source de tentations. Si Dieu nous exauçait, nous nous retrouverions dans le néant, on se demanderait comment on tiendrait debout d'ailleurs, mais dans le néant, sans rien. Ce qui est absurde. Donc, c'est bien, éloignez, détournez-moi, Seigneur, par la charité de tout ce qui peut m'éloigner, me détourner de ma fin unique. Et puis ensuite, nous lui demandons, « Et omnia nobis pro futura concedas, Et tout ce qui nous est utile, concédez-le-nous, accordez-le-nous. Accordez tout ce qui doit nous servir. Rien ne peut nous être nocif, mes très chers frères, tant que nous aimons Dieu. Tout ce qui nous est utile, tout ce qui nous est utile, eh bien, en revanche, peut sembler nocif au vieil homme. Alors, allons un petit peu plus loin et voyons ce qui peut nous être nocif. Mes frères, dit saint Paul, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Comme vous avez livré vos membres au service de l'impureté et de l'iniquité pour commettre l'iniquité, de même, livrez-les maintenant au service de la justice pour devenir saints. Lorsque vous étiez esclave du péché, vous n'étiez point soumis à la justice. Voilà ce que nous dit saint Paul. Notre Seigneur, en revanche, dans l'Évangile, nous dit ceci. « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous sous des vêtements de brebis et au-dedans sont des loups ravisseurs. » Qu'est-ce qui peut nous nuire? Nous avons vu chez saint Paul et dans l'Évangile que ce qui nous nuit, c'est le péché. C'est ou bien le péché, les péchés que nous commettions avant d'être convertis, ou bien les péchés, les gens qui nous poussent au péché, les faux prophètes. Voilà ce qui nous est nuisible. Ce qui nous est nuisible, ce sont les faux prophètes. Si de nos jours, mes très chers frères, on insiste à raison, bien entendu, sur la nocivité des doctrines des faux prophètes néo-catholiques, modernistes, subversifs, qui sont subversifs pour notre foi, on a bien raison d'insister parce qu'il ne faut pas se laisser prendre à ce piège. En revanche, il est intéressant de voir comment les anciens, d'une certaine manière qui n'étaient pas disons confrontés à cette situation-là, il y avait des hérétiques bien sûr, mais enfin, il y a eu des temps où il y avait moins d'hérétiques quand même, comment les anciens exhortaient-ils à propos de leurs fidèles, à propos de la parole de notre Seigneur? Eh bien, voici ce qu'ils nous disent. Ils nous disent que la désignation de faux prophètes désigne les directeurs de conscience qui encouragent leurs dirigés sur la voie large. Ce sont les directeurs qui professaient la morale relâchée, c'est-à-dire qui, finalement, sous prétexte de scolastique, arriver à tout justifier. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Les faux prophètes, bien sûr, ce sont les modernistes, bien sûr, c'est le pseudo-pape, bien sûr, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont les prêtres sans évêque qui disent aux fidèles qu'on n'a pas besoin d'avoir d'évêque. Ce sont des faux prophètes. Ce sont ceux qui encouragent la militance, prêtres ou évêques, qui encouragent la militance, donc le désordre. Vous faites quelque chose pour le bon Dieu, c'est très bien. Vous avez un blog, vous avez une émission, etc. Ah ben c'est très bien, vous n'avez aucune mission, c'est encore mieux. Vous travaillez gratuitement pour le bon Dieu. Hein, contrairement à moi, pauvre prêtre, qui suis un salarié du bon Dieu, comme tout le monde sait, comme disait Veuillot. Ce sont des faux prophètes. Vous voyez, encourager la militance, c'est être des faux prophètes. Et les laïcs qui encouragent la militance sont aussi des faux prophètes. Être un faux prophète, ou les faux prophètes, ce sont ceux aussi qui veillent à ce que les fidèles ne sortent pas, ne soient pas clairement avertis que ce qu'ils prennent pour la vraie religion n'est qu'une excroissance pervertie. On s'imagine que la vraie religion consiste à nier ceci ou cela, à faire état de certains points de détails, etc. On s'imagine que c'est la vraie religion. Et on se lance dans des combats qui d'ailleurs appellent les retours de bâton, et quand il y a le retour de bâton, on s'imagine être un bienheureux parce qu'on est persécuté pour la justice, pour la vérité. Combien de fois, mes très chers frères, entend-on ce blasphème, ce sacrilège, la vérité vous rendra libre à propos de tout et n'importe quoi? La vérité, c'est le Christ. Quelle est la vérité du Christ? C'est que vous êtes des pécheurs, que sans la grâce, vous ne pouvez rien faire, et que si vous pensez que sans la grâce, vous pouvez faire quelque chose, vous êtes un menteur et vous êtes odieux à Dieu. Quelle est la vérité? C'est que toutes les bonnes œuvres que peuvent faire les païens et faire les chrétiens sans charité ne valent rien et ont même le statut de péché devant Dieu. Voilà la vérité qui rend libre, mes très chers frères. La vérité vous affranchira, dit notre Seigneur, elle vous affranchira, la vérité, c'est-à-dire moi-même, dit notre Seigneur, vous affranchira de l'illusion de vous-même. Ce n'est pas le fait que tel ou tel banquier détourne de l'argent ou que les banques créent de l'argent factice. Tout ça, on s'en moque. C'est vrai. Et alors, ce n'est pas la vérité. Ce sont des choses, ce sont des faits temporels qui n'ont aucune incidence dans la vie du chrétien. Vous allez dire, et alors les chemtrails qui nous empoisonnent? Et alors, laissez-vous empoisonner pour l'amour de Dieu, sanctifiez-vous. C'est vous qui avez découvert ces choses? Non, ce sont des mécréants. Alors, ils remarquent des choses qui les intéressent, eux. Laissez les morts enterrer les morts, mes très chers frères. Même si vous vous grattez les morgelons, sanctifiez-vous, plutôt que de faire de tout ceci un cheval de bataille comme si c'était la quintessence du christianisme. La quintessence du christianisme consiste à diminuer pour que le Christ croisse en nous. Et si le Christ croit en nous alors que nous sommes, comme Job, recouverts de toutes sortes de choses qui nous démangent, et alors, ce n'est pas cela qui peut nous nuire, qui nous séparera de l'amour de Dieu, dit saint Paul. Donc, vous voyez, la vérité vous affranchira à propos de n'importe quoi. Non, mes très chers frères, tout ceci, ce sont des paroles de faux prophètes, et je n'hésite pas à le dire. Je ne jette pas la pierre, mais je n'hésite pas à le dire. Ce sont des faux prophètes qui guident, des aveugles qui guident des aveugles et qui tomberont dans la fosse. Tout arbre bon, dit notre Seigneur, ne peut porter de mauvais fruits, mais le mauvais arbre donne de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un mauvais arbre produire de bons fruits. Il n'y a pas d'exception, mes très chers frères. Alors, vous allez dire, cet arbre, ses fruits, c'est aussi moi. Eh bien, vous avez tout compris. Nous sommes l'arbre, les arbres que le bon Dieu a plantés dans son verger. Portons-nous de bons fruits ou de mauvais fruits? Voici ce que dit un auteur très judicieux. Une règle importante pour nous défendre de l'illusion sur nous-mêmes, c'est de juger de nous-mêmes, non par des désirs stériles que nous pouvons avoir, ni par des sentiments trompeurs de dévotion, mais par nos œuvres. Qu'est-ce que je fais pour obéir à Dieu? Vous voyez, c'est une paraphrase de ce que dit notre Seigneur. Ce n'est pas quiconque me dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là entrera dans le royaume des cieux. C'est une grande illusion, mes très chers frères, que de se dire j'aimerais être saint et de ne pas pratiquer la charité dès lors qu'on doit la pratiquer. C'est une grande illusion, mes très chers frères, que de ressentant quelques mouvements de piété dans notre cœur, s'imaginer que nous faisons des progrès spirituels, alors que nous ne pratiquons pas la volonté de Dieu, nous ne pratiquons pas ni l'aumône, ni la charité, ni le support des injures, ni que nous voulons que attaquer, nous voulons nous défendre, parce que nous sommes des vrais bons hommes, et nous ne sommes pas des etc. Donc du coup, nous voulons nous défendre. Qu'est-ce que c'est? À quoi sert ce combat pour Dieu qui est dépourvu de la charité? Vous allez dire, encore une fois, si nous pratiquons la charité, nous ne pouvons plus combattre pour Dieu. Eh bien, mes très chers frères, si vous êtes dans ces sentiments, c'est que vous n'êtes pas catholique, et donc vous ne pouvez pas communier. Une règle importante pour nous défendre de l'illusion sur nous-mêmes, c'est de nous juger nous-mêmes, non pas par nos désirs stériles, les désirs stériles que nous avons par rapport à Dieu, par rapport à notre propre perfection, le ciel, etc. Oui, je désire le ciel, et je ne fais rien pour... il faut nous juger par nos œuvres. Qu'est-ce que je fais pour obéir à Dieu concrètement? Attention, nos œuvres, ce n'est pas qu'est-ce que je fais pour Dieu, je n'ai fait que 3 blogs aujourd'hui, il faudrait encore faire 10 vidéos pour... Non, non, tout ça c'est du pipeau, ça ne sert strictement à rien. Qu'est-ce que je fais à Dieu aujourd'hui pour être humble? Qu'est-ce que je fais à Dieu aujourd'hui pour me détourner du monde? Qu'est-ce que je fais à Dieu aujourd'hui pour supporter mon prochain, pour aimer mon prochain comme moi-même? Qu'est-ce que je fais à Dieu aujourd'hui, qu'est-ce que je fais par rapport à Dieu aujourd'hui pour... contribuer à mon petit niveau à la concorde entre les frères. Voilà les œuvres et les seules œuvres sur lesquelles Dieu nous jugera. Si nous pensons autrement, mes très chers frères, nous sommes à nous-mêmes des loups déguisés en brebis. Nous sommes des loups déguisés en brebis pour nous-mêmes, pour notre âme, quand nous parons du titre de figue et de raisin, les ronces et les épines que nous produisons en abondance. De toutes ces choses-là, nous devrions rougir, comme nous rougissons des choses que nous faisions avant d'être chrétiens. Choses dont nous rougissons, dont vous rougissez, dit saint Paul. Voilà pourquoi saint Paul nous exhorte d'une façon qui est à notre portée, à la portée des hommes charnels. Comme vous avez, dit-il, comme vous avez livré vos membres au service de l'impureté et de l'iniquité pour commettre l'iniquité, de même livrez-les maintenant au service de la justice pour devenir saints. Saint Pierre nous dit dans son épître, qu'est-ce qui pourrait nous nuire si vous faites, qu'est-ce qui vous pourrait vous nuire si vous faites le bien? Rien en réalité. Mais notre esprit est si grossier que Saint Paul, nous disent les commentateurs, est obligé de mettre en parallèle notre ancienne vie et notre nouvelle vie. Il dit, mes frères, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de notre chair. Si nous, il nous parlait comme à des êtres spirituels, comme des hommes spirituels, des hommes adultes dans le Christ, il nous dirait, il n'y a pas de comparaison entre votre nouvelle vie et l'ancienne. Vous étiez esclaves du diable, maintenant, la meilleure œuvre que vous faisiez était un péché. Maintenant, ce que vous faites, la moindre des œuvres que vous faites avec la charité est une œuvre divine. Mais nous ne sommes pas capables de le comprendre. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, vous vous souvenez? Quand vous étiez des ordures et que vous viviez uniquement pour vous, pour le diable, pour votre chair, pour vos plaisirs, pour votre et que vous commettiez iniquité sur iniquité. Vous vous souvenez? Oui, je m'en souviens. Eh bien, maintenant, faites la même chose, mais pour Dieu. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire qu'avant, je ne faisais rien que pour moi-même, mais maintenant, je ne vais rien faire que pour Dieu. Vous voyez? Il établit un parallèle. Évidemment, c'est un parallèle charnel, parce que nous devons faire beaucoup plus pour Dieu que nous ne faisions pour nous-mêmes. Mais d'une certaine manière, nous en faisions tant pour nous-mêmes, que saint Paul ne dédaigne pas d'utiliser la comparaison en nous disant « Vous étiez passionné par vous-même, maintenant soyez épris de Dieu au point d'aimer Dieu jusqu'au mépris de vous-même. » Dimanche dernier, vous vous souvenez, mes très chers frères, nous avions dit que notre vie chrétienne doit être un miracle de changement et de transformation. Un miracle de la grâce, bien entendu, mais nous ne devons pas nous empêcher l'œuvre de la grâce en nous. Nous devons être radicalement différents de ce que nous étions. Vous voyez, souvent, il y a des gens, malheureusement, ça se voit surtout dans les gants de, dans les figures de la militance, c'était ceci et cela, c'était des blogueurs mode, cuisine, etc. Ils se convertissent, tout d'un coup, ça devient des blogueurs sur la théologie. Il n'y a pas une très grande différence. Où est la repentance? Où est l'abandon des anciennes voies? Vous voyez, où est le changement? Vous allez dire, si c'était quelque chose de bien qu'on faisait, il suffit de le... C'est pas trop mal, il suffit de changer le contenu. Bon, c'est pas totalement faux, d'ailleurs. Mais, vous voyez, ce n'est pas ce que nous enseigne la morale catholique. Avant, j'étais furieux tout le temps parce que j'étais très susceptible. Puis maintenant, je deviens très furieux, je suis très susceptible pour les choses de Dieu. Ben, vous voyez, ce n'est pas bien. Ça veut dire que tout simplement, je me suis identifié à la religion chrétienne, à la foi chrétienne. Et avant... J'étais susceptible quand on m'insultait, et puis maintenant je suis susceptible quand on insulte la religion divine. Qu'est-ce que ça signifie? Quelle serait la bonne attitude? Je dois être moi-même quelqu'un qui vit dans la pénitence de tous les blasphèmes que j'ai faits, que j'ai prononcés dans mon ancienne vie contre la religion divine. Et quand je vois des gens qui blasphèment contre la religion divine, cela doit dans un premier temps, m'amener à me repentir et à dire « Mon Dieu, dire que j'étais comme eux ». Et non pas leur sauter à la gorge en leur disant « Mécréante, vous allez en enfer !» Et si nous, on nous l'avait dit « Mécréante, vous allez en enfer !» quand nous blasphémions, nous aurions donné un coup de poing dans la figure de la personne, nous aurions dit « Ben voilà, voilà déjà quelque chose pour toi. » Vous voyez, mes très chers frères, très souvent, il nous semble que nous étions très bien et tout ce qui nous manquait, c'était juste la foi. Mais maintenant que nous avons la foi, nous sommes parfaits. Eh bien non, mes très chers frères, tout ce qui nous manquait, c'était juste la vie. Nous étions des cadavres en putréfaction. Et la seule chose qui nous manquait, c'était la vie. Mettez la vie dans un cadavre en putréfaction, ça fait un drôle d'effet quand même. Notre Seigneur n'a pas simplement insufflé ce qui nous manquait à nous, pauvres cadavres, il nous a recréés dans son Christ. Jamais, Dieu est un Dieu jaloux, jamais il n'aurait mis sa vie, sa grâce, la vie divine, la grâce de Dieu, la lumière divine, dans un corps cadavérique. Dieu déteste l'homme marqué par la chute. Dieu déteste cette chose comme un artiste déteste une œuvre qui aurait été complètement mutilée et rendue ridicule. Une œuvre à lui qui aurait été complètement mutilée et rendue ridicule, au point d'être défigurée. Vous voyez ? Donc, Dieu déteste le péché, Dieu déteste le pécheur dans la mesure où il demeure dans le péché. Nous savons que Dieu, sous un certain rapport, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Encore faut-il être l'objet de la bonne volonté divine. Vous voyez ? Donc, vous voyez, mes très chers frères, les loups ravisseurs, ce sont ceux qui nous encouragent à continuer à être ce que nous sommes. Saint Paul, nous enseignant à faire un parallèle entre ce que nous étions autrefois et ce que nous sommes aujourd'hui, nous dit que, en fait, il ne doit pas y avoir de proportion entre ce que nous étions autrefois et ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous devons être aujourd'hui. Nous devons être un miracle de changement et de transformation. Tout notre être doit être spontanément prêt à faire le bien, comme nous étions prêts à faire spontanément le mal autrefois. Évidemment, vous allez dire, c'est plus difficile. C'est vrai. L'homme, depuis la chute, fait spontanément et naturellement le mal. Mais n'oubliez pas qu'il le fait parce qu'il a un défaut de volonté. Tant que la volonté n'est pas illuminée par la grâce, elle ne peut pas vouloir autre chose que au moins l'amour-propre et la concupiscence et le péché. Maintenant, dès lors que la grâce nous est donnée, l'homme devient capable de vouloir le bien. Eh bien, c'est cette volonté pour le bien qui doit nous caractériser, mes très chers frères. Vous allez dire, on ne peut pas l'inventer. Si on ne l'a pas, on ne peut pas l'inventer. C'est vrai. C'est pour ça qu'il faut la donner, demander sérieusement à Dieu. Il faut le prendre, disons, il faut le prendre à témoin de ses propres paroles. Il dit, il faut dire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Père Saint-Augustin, que vous nous avez donné comme guide et comme lumière, et à votre Église tout entière, nous dit que vous couronnez vos propres dons. Donnez-moi vos dons. Il dit que ce que vous ordonnez, vous le donnez. Donnez-le-moi, Seigneur, puisque vous l'avez demandé. Et soyons prêts à être exaucés. Parce que souvent, comme nous le disons, mes très chers frères, le problème n'est pas tellement que Dieu ne veut pas nous exaucer ou qu'il est très lent à nous exaucer, c'est que nous ne voulons pas être exaucés. Donnez-moi la charité, mon Dieu, donnez-moi la charité. Oh, il y a un frère qui m'énerve, qui m'embête. Il y a quelqu'un qui me marche dessus. Il y a quelqu'un qui m'écrase, qui me spolie. Comment c'est possible? Mon Dieu, je vous demande la charité et puis je n'arrête pas d'être embêté. Mais justement, comment avoir la charité si on n'exerce pas la charité? C'est un petit peu comme si vous disiez à quelqu'un, donnez-moi un coup de main. Et puis vous arrêtiez là. Comment? Un coup de main, à strictement parler, c'est une gifle. C'est un coup de poing dans la figure. Un coup de main, au sens propre du terme, c'est aidez-moi à déplacer ce meuble. Vous voyez? Donnez-moi un coup de main. Oui, d'accord. Alors, oui. Souvent, nous sommes dans cette situation absurde vis-à-vis de Dieu. Nous lui demandons les choses qu'il veut que nous lui demandions, ce qui est déjà énorme, mais après, nous ne comprenons pas qu'il nous les donne. Un petit peu comme un sauvage vous demandait, vous demandait l'aumône, il vous disait, je meurs de faim, aidez-moi, vous lui donnez un billet. Il va dire, ben, c'est bien gentil de me donner des vignettes, mais moi j'ai faim. Ah oui, mais le problème, c'est que vous ne savez pas que ce que je viens de vous donner vous rend capable d'acheter quelque chose dans le magasin. Vous voyez ? Mon Dieu, je vous demande quelque chose, vous me le donnez, la seule chose, je suis tellement charnel que je ne me rends pas compte que vous me le donnez. Et donc, je perds l'occasion. Heureusement que notre Dieu est bon, c'est notre Père, il est patient. Mais enfin, il ne faut pas non plus perdurer dans des situations qui n'ont pas lieu d'être quand on est chrétien. Nous avons la dignité de baptiser, le baptême a fait de nous des autres Christ, dit notre Père Saint-Augustin, et nous devons nous comporter selon la dignité du Christ et non pas selon la dignité de pauvres débiles serviteurs de Satan. Quand vous étiez esclave du péché, vous n'étiez point soumis à la justice. Alors attention, hein, les exégètes nous disent que ça ne veut pas dire que nous étions libres de la justice dans le sens où nous n'avions pas à lui obéir. C'est nous-mêmes qui nous mettions en dehors de la divine servitude de la justice. C'était une fausse liberté. À présent, nous sommes affranchis de nos péchés et nous sommes esclaves de Dieu, servis. Nous, servi à autem facti deo, vous avez été fait esclave de Dieu. Le bon Dieu, ce n'est pas un consultant en qualité de vie qui veut nous donner quelque chose de bien et c'est à nous de choisir si oui ou non. Par le baptême, nous sommes devenus esclaves de Dieu. Vous allez dire, si j'avais su, j'aurais réfléchi. Oui, mais avant, vous étiez esclave de Satan. Comme dit saint Augustin, il n'y a pas de. La question n'est pas de savoir si on est esclave ou libre avant de se convertir, mais si de qui on est esclave. Est-ce que je suis esclave du diable, de moi-même? Ce qui revient à peu près au même, et c'est même pire, ou est-ce que je suis esclave de Dieu? Si je suis esclave de Dieu, alors, véritablement, je suis un familier de la maison divine, sachant que je suis esclave par un certain côté, je suis fils par un autre. Nous sommes de bons arbres par le baptême, et ces bons arbres ne peuvent pas porter de mauvais fruits. Vous allez dire, mais oui, mais je porte tellement de mauvais fruits. Alors, ça veut dire que nous nous imaginons encore être de mauvais arbres. Nous sommes une vigne. Nous sommes un ancien chardon qui a été transformé en vigne. Et nous continuons à faire des chardons. Pourquoi? Parce qu'il nous semble que nous sommes encore ce que nous étions. Mais nous sommes un bon arbre. Voilà qui est encourageant. Vous voyez comme l'Église nous encourage. Nous sommes des bons arbres. Nous savons, autant nous savons que Dieu ne se trompe pas dans les dispositions de sa providence, autant nous savons que nous ne sommes pas de mauvais arbres dans la mesure où nous sommes catholiques. Vivre autrement qu'en chrétien, c'est vivre dans l'illusion d'être chrétien. Vivre autrement que par la charité, c'est vivre dans l'illusion d'être chrétien. C'est amasser un trésor de colère sur sa tête. Et là, ce n'est pas la peine de dire « oui, mais je suis quand même baptisé, Dieu quand même le voit ». Il voit que vous êtes baptisé, donc il voit que vous êtes encore plus coupable que les malheureux qui ne sont pas baptisés et qui, même lorsqu'ils font le bien, font le mal. Vous êtes beaucoup plus coupable parce que vous pourriez faire le bien et que vous ne le faites pas. Le bien, c'est la charité dans l'ordre. Tout le reste, c'est travailler pour le diable. Alors vous allez dire, très cher frère, tout ceci est très intimidant et je me sens comme un peu découragé. Et c'est pour cela que, mes très chers frères, l'antienne de communion tout à l'heure sera la suivante, tirée du psaume 30. Inclinez vers moi votre oreille, Seigneur, hâtez-vous de me délivrer. Hâtez-vous de me délivrer de moi-même. Hâtez-vous de me délivrer de l'illusion que je suis un bon chrétien alors que j'aime le monde. Hâtez-vous de me délivrer de tout ce qui m'est nocif, c'est-à-dire de ma mauvaise volonté, car il n'y a que ma mauvaise volonté qui soit nocive dans le monde pour moi. Même le diable, même le monde avec toutes ses tentations ne sont pas nocifs pour nous dans la mesure où nous aimons Dieu et où notre regard est détourné de toutes ces choses. Inclinez-vous vers moi, hâtez-moi de vous délivrer, de nous délivrer. Délivrez-nous, mon Dieu, car nous ne pouvons pas nous délivrer nous-mêmes. Approchez-vous de lui pour être illuminé de sa lumière et n'avoir point de visage couvert de confusion. Vous ressentez la confusion d'être esclave de votre vieil homme, mes très chers frères. Eh bien, approchez-vous de lui pour être illuminé de sa lumière et n'avoir point le visage couvert de confusion au jour de sa venue. Et c'est pour cela que nous terminons en priant de tout notre cœur la prière de la post-communion, que votre action guérissante, Seigneur, nous délivre de nos tendances perverses et nous conduise dans les voies de la justice et du bien par Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il. Thank you.